Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en décembre 1947, il y a juste 70 ans, la France était au bord de la guerre civile. Les communistes, devenus très puissants après la guerre de 39-45, avaient déclenché une grève générale dans l'intention de prendre le pouvoir. Sabotage, attentats, violentes manifestations, émeutes se multipliaient. Or, à la surprise générale, le soir du 9 décembre, le comité national de grève donna l'ordre de reprendre le travail. Le 10 au matin, il y a juste 70 ans, 3 millions de grévistes retournent à leurs usines et leurs ateliers. Le calme revient dans le pays. Que s'était-il passé? Ceux qui ont assisté à la procession vendredi soir connaissent la réponse. La Sainte Vierge était apparue le 8 décembre à 4 enfants de l'île Bouchard. Dites aux petits-enfants de prier pour la France. Priez pour la France qui, ces jours-ci, est en grand danger. Vous trouverez cette histoire sur des feuilles à l'entrée sous le portique, ceux qui ne connaissent pas. Cet événement qui montre la force de Notre-Dame et de la prière à Notre-Dame pour vaincre le communisme athée nous servira d'introduction. Nous voulons en effet parler ce matin, dans le cadre de l'année Fatima, de la dernière grande apparition, celle du jeudi 13 juin 1929 à Tuy, en Espagne, où Sœur Lucie se trouvait depuis 1926. Sœur Lucie avait demandé et obtenu la permission de ses supérieurs de faire l'heure sainte de 11h à minuit. Écoutons-la raconter elle-même cette apparition. Je m'agenouillais près de la balustrade, au milieu de la chapelle, pour réciter, prosterné, les prières de l'ange. Me sentant fatigué, je me relevais et continuais à les réciter les bras en croix. La seule lumière était celle de la lampe du sanctuaire. Soudain, toute la chapelle s'éclaira d'une lumière surnaturelle, et sur l'autel apparut une croix de lumière qui s'élevait jusqu'au plafond. Vous trouvez aussi une image sous le portique qui représente cette apparition. Dans une lumière plus claire, on voyait sur la partie supérieure de la croix une face d'homme avec un corps jusqu'à la ceinture. Sur sa poitrine, une colombe également lumineuse et, clouée à la croix, le corps d'un autre homme. Un peu en dessous de la ceinture de celui-ci, suspendu en l'air, on voyait un calice et une grande hostie sur laquelle tombaient quelques gouttes de sang qui coulaient des joues du crucifié et d'une blessure à sa poitrine. Coulant sur l'hostie, ces gouttes tombaient dans le calice. Sous le bras droit de la croix se trouvait Notre-Dame avec son cœur immaculé dans la main. C'était Notre-Dame de Fatima avec son cœur immaculé dans la main gauche, sans épée ni rose, mais avec une couronne d'épines et des flammes. Sous le bras gauche de la croix, de grandes lettres, comme d'une eau cristalline, qui aurait coulé au-dessus de l'autel, formaient ces mots « Grâce et miséricorde ». Je compris que m'était montré le mystère de la Sainte Trinité, et je reçus sur ce mystère des lumières qu'il ne m'est pas permis de révéler. Ensuite, Notre-Dame me dit, « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. Elles sont si nombreuses, les âmes que la justice de Dieu condamne pour des péchés commis contre moi, que je viens demander réparation. Sacrifie-toi à cette intention et prie. » Je rendis compte de cela à mon confesseur, qui m'ordonna d'écrire ce que notre Seigneur voulait que l'on fasse. Voilà donc le récit de l'apparition des mains de sœur Lucie elle-même. Le pape Pie XI fut mis au courant de cette demande du ciel entre le mois de septembre 1929 et le mois d'août 1930. Pardon, septembre 1930 et mois d'août 1931. En effet, en août 1931, sœur Lucie se trouvait en repos à Rianjo, petite ville maritime située près de Pontevedra. Dans une communication intime, notre Seigneur lui dit en se plaignant, « Ils n'ont pas voulu écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s'en repentiront, et ils le feront, mais ce sera tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. » Si le pape Pie XI ne voulut pas obéir à cette demande de la Sainte Vierge de consacrer la Russie à son cœur immaculé, refus qui fut malheureusement poursuivi par tous ses successeurs, c'est parce qu'il était engagé dès son avènement dans la funeste politique de la main tendue, qui n'est qu'un piège de la dialectique communiste. Voici ce que disait Lénine. Il faut consentir à tous les sacrifices, user même en cas de nécessité de tous les stratagèmes, user de ruses, adopter des procédés illégaux, se taire parfois, sceller parfois même la vérité, à seule fin de pénétrer dans les syndicats, d'y rester et d'y accomplir malgré tout la tâche communiste. Malheureusement, Pie XI n'a pas perçu tout de suite cette perversité diabolique du régime communiste. Il a d'abord souhaité négocier avec lui, et il a longtemps cru que par ce moyen, une conversion par voie diplomatique de la Russie était possible. Ce n'est qu'en 1937 qu'il comprit, et il écrivit dans son encyclique « Divini Redemptoris » Vénérables frères, il parle aux évêques, apportez la plus rigoureuse attention à ce que les fidèles se défient de ces pièges. Le communisme est intrinsèquement pervers. Il ne faut donc collaborer en rien avec lui quand on veut sauver de la destruction la civilisation chrétienne et l'ordre social. Donc, en 1931, le pape refusa d'obéir à la reine du ciel. Ce refus eut des conséquences dramatiques. L'année suivante, les communistes décidèrent d'affamer l'Ukraine. En 1932 et 1933, 7 à 10 millions d'hommes, de femmes et d'enfants moururent de faim. D'une faim organisée, décidé, planifié depuis Moscou dans de belles demeures réquisitionnées par quelques individus. Tout cela avec le but avoué et écrit de renouveler la population ukrainienne par des apports étrangers pour réaliser un saint métissage. Le grand ordonnateur de cette Holodomor, c'est-à-dire la grande famine, s'appelait Lazar Moïse Kaganovitch. Le commissaire Kaganovitch avait commencé par confisquer tout le grain sur un territoire immense, qu'il avait fermé hermétiquement par des troupes bien nourries qui assistèrent littéralement à cette lente agonie pendant 2 ans. Lazar Kaganovitch mourut à Moscou en 1991, il avait 88 ans et il ne fut jamais inquiété. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette apparition de Thuy? Nous ne pouvons évidemment pas remplacer le pape. et nous ne pouvons que subir les conséquences du refus de consacrer la Russie. Ces conséquences sont que les erreurs de la Russie, c'est-à-dire le communisme avec son cortège d'erreurs, continuent de se répandre dans le monde. Sans doute, au moins provisoirement, les goulags sont fermés en Russie. Mais le socialisme athée se répand de plus en plus dans le monde entier et les institutions chrétiennes disparaissent les unes après les autres. Notamment l'école et la famille. Cependant, si nous ne pouvons pas remplacer le pape, nous pouvons néanmoins tirer deux leçons de cette apparition. La première, c'est qu'on ne discute pas avec le diable. Le dicton populaire dit « on ne soupe pas avec le diable, même avec une grande cuillère ». Le communisme est un système diabolique. Ses dirigeants sont des vrais suppôts de l'enfer. Le seul langage qu'ils comprennent est celui de la fermeté. Pie XI lui-même en avait fait l'expérience lorsque le 2 février 1930, il lança un appel au monde dénonçant les persécutions de toutes sortes que les communistes infligeaient aux populations et spécialement le caractère violemment anti-religieux de ces persécutions. La protestation et l'appel du pape rencontrèrent un vaste écho. Le dissident russe Michel Agourski écrivit « Staline, devant la décision et la cohésion des croyants occidentaux, dut faire marche arrière. Peu de jours avant la journée de prière décidée par le pape le 19 mars 1930, le comité central approuva une résolution qui reconnaissait les exagérations de la politique religieuse soviétique. À notre niveau, retenons la leçon. Quand nous sentons la présence du diable, ne cherchons pas à négocier. Il faut immédiatement couper court, montrer que nous ne voulons en rien entrer dans son jeu. Cela explique, en passant, l'attitude que nous avons prise par rapport à la main tendue par la Rome moderniste. Les fumées de Satan sont entrées dans l'Église, nous disait le pape Paul VI. Qu'est-ce que ces fumées? C'est le modernisme, collecteur de toutes les hérésies. La seule attitude prudente vis-à-vis de la Rome moderniste est la fermeté. Nous n'acceptons donc pas cette main tendue, nous n'accepterons qu'après le retour de Rome à la tradition. C'était d'ailleurs l'attitude que recommandait Mgr Lefebvre avant sa mort. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette apparition de Thuy nous est suggérée par le symbolisme de la vision. Nous y trouvons les symboles des principales demandes de Fatima. Le cœur immaculé de Marie, le chapelet, le sacrifice symbolisé par la croix et l'autel, enfin la Sainte Eucharistie. Et remarquons que tous ces symboles se trouvent sous le bras droit de la croix, là où est la Sainte Vierge, pour montrer que toutes nos prières et nos sacrifices passent par la Sainte Vierge, montent jusqu'à la Sainte Trinité et redescendent ensuite en grâce sur les justes et en miséricorde sur les pécheurs. C'est l'occasion de nous poser quelques questions pour voir si nous mettons en pratique les demandes que la Sainte Vierge a faite à Fatima. Est-ce que nous cherchons à augmenter notre dévotion au cœur immaculé de Marie et à répandre cette dévotion autour de nous? Est-ce que nous prions notre chapelet tous les jours? Remarquons que la Sainte Vierge a utilisé l'expression « prier le chapelet »,« rezar ». Ce n'est pas simplement réciter machinalement. Est-ce que nous faisons chaque jour quelques sacrifices par amour pour Jésus, pour réparer les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie et convertir les pauvres pécheurs. Enfin, est-ce que nous faisons souvent la communion réparatrice, notamment les premiers samedis du mois? Prions donc à l'occasion de cette messe, non seulement pour que le pape fasse enfin cette consécration de la Russie, mais encore pour retenir les leçons de cette apparition. Aucune compromission avec le diable. Fidélité et générosité pour répondre aux demandes du cœur immaculé de Notre-Dame à Fatima. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.